Allume la science, la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce nouveau numéro d'Allume la science, l'émission qui vous branche sur l'actualité scientifique des laboratoires de Muse, Montpellier Université d'Excellence. Nous avons tous entendu parler de ces chiens ou de ces chats capables de détecter un cancer avant même que son porteur n'en ressente les moindres symptômes. Magie, sixième sens animal, bof. Nous avons depuis découvert que les processus tumoraux qui modifient parfois notre morphologie peuvent également modifier nos odeurs corporelles, rendant ainsi le cancer décelable par nos amis à quatre pattes. Aujourd'hui, l'écologie de l'évolution jette une lumière nouvelle sur ces processus tumoraux et sur l'influence qu'ils pourraient avoir dans les interactions interespèces et donc dans l'évolution des écosystèmes. Notre invitée est doctorante à MIVEGEC, le laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses et vecteurs, écologie, génétique, évolution et contrôle. Avec son équipe, elle s'est intéressée au cas de l'hydre, et en particulier des hydres tumorales, donc porteuses d'un cancer, et de l'interaction de ces hydres avec leurs proies, leurs prédateurs ou leurs commensaux. Les résultats de cette étude ont été publiés en septembre dernier dans le journal Science of the Total Environment, l'accent est toujours aussi compliqué. Avec nous dans le studio, Justine Boutry, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Elle aussi évolue chaque semaine et colonise peu à peu vos esprits avides de connaissances. Avec moi pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot.
Bonjour.
Bonjour Aline. En seconde partie d'émission, nous restons dans le monde animal, puisque nous vous emmenons découvrir la collection de zoologie de l'Université de Montpellier. Et c'est Audrey Théron qui vous fait la visite pour ce premier volet consacré aux mammifères. Allume la science, vous avez le courant, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56.
Alors Justine 55. Boutry, on commence toujours par cette interview par une question de base. Donc pour commencer, on va vous poser une question sur le cancer. On a un peu l'impression que c'est la maladie donc du 20e ou du 21e siècle plutôt. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis combien de temps il existe le cancer ?
Alors effectivement, c'est ce qu'on a tendance à penser, parce que déjà on réfléchit que dans notre petite bulle d'humain et on voit que les cancers qui vont toucher les humains, nos animaux de compagnie, alors qu'en fait déjà le cancer c'est quelque chose qui va toucher l'ensemble des organismes multicellulaires qu'on connaît, ou du moins leur grande majorité, et du coup c'est apparu en même temps que la multicellularité. Dans l'évolution, au moment où les cellules ont commencé à coopérer pour former des organismes plus gros, elles ont mis en place plein de communications, plein de systèmes pour que l'organisme les gère. Et comme dans tout système bien huilé, il y a toujours des tricheurs. Et en fait, du coup, évolutivement, le cancer est apparu à ce moment-là, quand des cellules ont commencé à tricher.
D'accord, donc on est au début de tout, en fait, au début
c'est
de
ça.
La vie.
Le cancer est apparu, oui, en même temps que nos ancêtres les plus lointains. Donc finalement, c'est pas quelque chose de nouveau, en tout cas pour nos organismes. C'est pour ça qu'on a plein de choses pour les gérer, naturelles. Et c'est pour ça aussi qu'on observe ce que les autres espèces font pour gérer ces cancers, parce que finalement, c'est un problème qui nous concerne tous.
Et vous venez de le dire, justement, comme on pourrait le penser, ça ne touche pas uniquement l'homme ou les animaux domestiques, mais tous les êtres vivants, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on sait dans quelle proportion sont touchés les animaux sauvages, par exemple, par le cancer ?
Eh ben, c'est une bonne question. C'est une question qu'on pose aussi souvent dans l'équipe. On essaye d'y répondre par différents biais. Notamment, on va avoir les animaux de zoo qui vont nous donner des informations sur un petit peu comment leur espèce va développer des cancers, parce qu'on est capable, eux, de les suivre. Mais dans l'environnement naturel, c'est très compliqué d'y répondre, parce que la première chose qui se passe quand un animal est un peu malade, c'est qu'il va se faire manger par un prédateur, il va disparaître, et donc nous, on n'a plus accès à ces données. Donc c'est très compliqué d'étudier un phénomène qui déjà est assez rare par sa survenue. C'est pas non plus aussi répandu que, par exemple, le parasitisme, on va toujours avoir des parasites en nous. Le cancer, on en a toujours en nous, mais la manifestation terminale, on la voit que très à la fin, au moment où l'organisme va déjà presque disparaître de l'écosystème.
Alors, donc juste pour repréciser, vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas oncologue, vous travaillez en écologie de l'évolution. Est-ce que vous pouvez un peu nous préciser ce que c'est que l'écologie de l'évolution et dans quelle mesure vous vous intéressez au cancer, en fait ?
Oui. Alors du coup, l'écologie de l'évolution, ça s'intéresse à comprendre comment les espèces évoluent, à la fois par les pressions de sélection, par les gènes qu'elles vont développer de ça, et comment du coup ça va modifier les espèces. Mais il y a aussi l'écosystème qui va influencer comment s'expriment ces gènes, comment vont évoluer les espèces et comment elles sont sélectionnées. Et du coup, dans ce cadre-là, on va regarder l'évolution des espèces dans leur écosystème. Et le cancer, c'est la même chose. C'est comme une espèce, en fait, qui évolue à l'intérieur du corps. Ces cellules, elles vont plus ou moins se reproduire comme des organismes. Elles vont aussi avoir des pressions de sélection. Par exemple, la chimiothérapie, quand on y pense, c'est une pression de sélection. Comme l'antibiorésistance qui va faire émerger certains types de cellules et pas d'autres.
On est complètement dans des processus darwiniens.
Voilà, c'est ça. C'est un processus darwinien à l'œuvre à l'intérieur du corps. Mais en plus, quand on prend derrière de la hauteur et qu'on regarde à l'échelle des espèces, là, c'est l'effet inverse. C'est que le cancer devient une pression de sélection pour les espèces. Donc, il y a vraiment deux échelles sur lesquelles on travaille. Et on appelle ça un petit peu le conflit entre les niveaux de sélection. Entre la cellule tumorale qui veut évoluer, entre guillemets, elle ne va pas évoluer, mais elle va évoluer avec sa propre trajectoire, et l'organisme qui évolue avec une autre trajectoire. Et encore, tout ça dans l'écosystème, en interaction avec plein d'espèces.
Et alors, ces fameux processus darwiniens dont on parle, qui sont à l'œuvre dans la dynamique tumorale, ils auraient aussi une influence sur le phénotype des animaux qui sont atteints par le cancer. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire un peu ce que c'est que le phénotype et nous donner quelques exemples de modifications du phénotype induites par les cancers ?
Oui, alors le phénotype, c'est en fait l'ensemble des traits qu'on observe d'un individu. Par exemple, ça va être la couleur des yeux, le poids, la taille, même la libido. Et du coup, cet ensemble de traits observables d'un organisme va être modifié dans le cadre de la majorité des pathologies qu'on connaît. Par exemple, quand on a un rhume, on va avoir de la fièvre. Et dans le cadre du cancer, on connaît plein de modifications, donc perte de poids, d'appétit... sommeil perturbé, tout ça. Il y a beaucoup de choses qui changent. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les cancers animaux, finalement, on le décrit un peu de manière vétérinaire, mais on ne s'est pas intéressé à comprendre. Mais du coup, puisqu'il agit différemment, qu'est-ce qui va changer aussi dans le reste des organismes qui l'entourent, en fait, dans une population, qu'est-ce que ça va changer d'avoir un animal qui va avoir le cancer, et du coup, dans un écosystème, qu'est-ce que ça change ? Du coup, il y a eu des papiers super intéressants, par exemple sur les drosophiles, où on s'est aperçu que rien qu'à l'intérieur d'un groupe social, les drosophiles atteintes de cancer vont être isolées et vont rechercher du coup à se grouper avec d'autres drosophiles qui ont le cancer, et ça va ralentir leur pathologie. Donc là, on voit tous les différents niveaux d'interaction en fait, qui vont être impliqués. Et tout ça, ça part d'une modification du phénotype et du comportement de la mouche et de à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle rejette comme molécule.
Il y a un exemple qui me semble un peu connu aussi, qui est celui du diable de Tasmanie. Vous pouvez peut-être nous expliquer rapidement ce que ça modifie chez lui, le fait d'être atteint d'un cancer.
Oui, alors chez le diable de Tasmanie, du coup, ils vont avoir des cancers de la face. Et ce qui est très intéressant chez ce cancer, et ce qui est aussi le cas chez l'hydre, c'est qu'il est transmissible entre individus. Et là, on ne parle pas d'une transmission génétique, on parle vraiment de la cellule qui va passer d'un individu à l'autre. Et pour
c'est
ça,
un cancer contagieux. Donc.
Voilà, c'est un cancer complètement contagieux. On peut même parler de métastase inter-individuelle, en fait, finalement. Et du coup, ces diables de Tasmanie, ils vont agir différemment. Ils vont être déjà plus agressifs. Et en fait, cette agressivité, ça va aussi permettre de transmettre les cellules tumorales. Également, on s'est aperçu que ça modifiait carrément leur façon de se reproduire avant. Parce qu'en plus, ce qui est bien avec cet exemple, c'est qu'on connaît quand est apparu ce cancer, donc il y a à peu près 50 ans, 60 peut-être maintenant. Et du coup, au début, les diables de Tasmanie se reproduisaient plusieurs années consécutives et avaient du coup été ce qu'on appelle hétéropares, se reproduisent plusieurs fois. Et maintenant, avec cette réduction de l'espérance de vie à cause de ces tumeurs, ils se sont mis à se reproduire de manière très précoce et une seule fois dans leur vie. Donc ils sont devenus sémellepares. Donc c'est une modification drastique.
D'accord. Donc là, dans cette étude, donc l'étude que vous venez nous présenter aujourd'hui, vous vous intéressez à l'influence que les processus tumoraux peuvent avoir entre les espèces, pas au sein d'une même espèce.
Voilà.
Donc vous parlez d'interactions biotiques. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez nous définir ce terme-là ?
Simplement, c'est des interactions entre des êtres vivants. Il y a des interactions abiotiques, par exemple, comment la température va influencer le comportement, même le nôtre. Et il y a des interactions biotiques qui impliquent du coup deux êtres vivants ensemble.
D'accord. Donc là, votre étude, elle porte sur plusieurs espèces d'un même écosystème.
Voilà.
Et du coup, oui, pour étudier l'influence des cancers sur ces interactions biotiques, vous avez reproduit un microcosme artificiel tripartite autour d'une espèce en particulier qui est le Cnidaire hydra oligactis ou l'hydre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est qu'une hydre ou un hydre ? D'ailleurs, on dit quoi ? On dit un hydre ?
Ah, nous, on dit une hydre.
Une hydre.
Mais c'est vrai qu'on dit aussi un tentacule. D'accord. Des fois, il y a des petits doutes.
Parlons des tentacules. Comment c'est, ça, des tentacules ? À quoi est-ce que ça ressemble ?
Ça ressemble... Le plus simple pour se représenter, c'est de voir une méduse, mais en très petit. beaucoup plus petits, ça vit de manière fixée, en fait. On va avoir que la forme polype qui existe tout au long de leur vie. C'est leur forme de vie normale. Et du coup, avec leurs tentacules, elles vont être des prédateurs et elles vont consommer différents petits invertébrés qui passent dans leurs tentacules. Et elles vont aussi être soumises à différentes pressions de prédation. Donc, notamment, les poissons sont capables de les chasser préférentiellement parce que c'est assez nutritif, forcément. Ça mange plein de choses. Et elles vont aussi avoir des parasites, en fait, comme n'importe quel organisme de l'écosystème.
Ça fait quelle taille, à peu près, pour se représenter?
Ça fait entre 1 mm et 1 cm, on va dire, selon les espèces. Après, ça se repère quand même bien à l'œil nu. On en a dans tous les cours d'eau douce. Nous, on en récupère au Salagou, dans l'Aise. Quand on se baigne, on peut en avaler si on boit la tasse. C'est partout.
Alors, pourquoi vous avez choisi cette espèce en particulier pour travailler sur les cancers? Elle est particulièrement sujette à ça, ou aux tumeurs?
Oui, alors effectivement, d'abord il y a eu un papier en 2014 où on a étudié leur génome et on s'est aperçu qu'il y avait quand même 44 gènes en commun avec les tumeurs chez nous, donc ce qui est super pratique. En plus de ça, on est chez des invertébrés qui se reproduisent clonalement ou de manière sexuée, comme on veut. Et ça se reproduit très vite, donc ça nous permet d'avoir beaucoup plus de capacités expérimentales. Derrière, on peut faire des choses avec ces hydres qu'on ne pourrait clairement pas faire avec des humains. Déjà, rien que les soumettre à un prédateur, c'est plus sympa quand c'est des hydres que quand c'est un chat, un chien, un invertébré. Donc tout ça, c'est quand même des choses qu'on a pris en compte quand on a choisi ce modèle. Et en plus de ça, c'est une espèce qui est à la base des métazoaires, donc les animaux, donc notre groupe en fait. Donc on peut penser que si quelque chose se développe chez elle, ça peut être potentiellement partagé par tous les animaux métazoaires.
Et alors, qu'est-ce qui change une fois qu'elle est atteinte par le cancer chez elle?
Alors, du coup, chez cette lignée, on observe une augmentation du nombre de tentacules. Et de manière très visible, en fait, on voit qu'elles deviennent comme des boules pleines de petites tuméfactions, en fait. C'est comme ça qu'on les a repérées à l'œil nu la première fois. Et du coup, on s'est demandé, on voit qu'elles sont très différentes. Qu'est-ce que ça implique? Déjà, le fait d'avoir plus de tentacules, potentiellement, c'est un plus grand filet pour attraper leur proie. C'est effectivement ce qu'on a montré dans l'article. Donc, elles vont plus attraper de proies. Et aussi, le fait d'être plus grosse, peut-être aussi d'avoir plus de tentacules, ça, on n'a pas pu l'avoir dans le détail, ça va aussi plus attirer l'attention des prédateurs. Elles pourraient aussi avoir un comportement différent, ce qu'on n'a pas mesuré. Mais déjà, on s'est basé sur les traits qu'on observe, nous. Et effectivement, le poisson observe lui aussi une différence. Ce qui fait la différence, on ne peut pas le dire avec certitude. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les poissons, ils vont se diriger vraiment très préférentiellement sur ces hydres plus grosses.
On va y revenir dans deux minutes.
Justement, on l'a dit tout à l'heure, autour de cette hydre, vous avez reproduit ce qu'on a appelé le microcosme artificiel tripartite. De quoi il est composé, cet écosystème que vous avez reproduit?
Oui, alors un microcosme, on utilise ce terme pour dire qu'on va mettre plusieurs choses en présence. Donc là, comme on est sur des interactions biotiques, plusieurs êtres vivants. Donc on a l'hydre qui est le centre. On va avoir les tumeurs qu'elles vont porter ou non à l'intérieur, qui vont venir modifier leur comportement.
Donc et vous considérez comme un organisme à part, c'est ça?
En quelque sorte, ouais. Oui. Dans notre design expérimental, on voit ce que modifient les cellules tumorales en ayant des hydres qui en ont et des hydres qui en ont pas. Mmh. Voilà, notre contrôle, c'est vraiment du coup l'absence ou la présence de cet être vivant, pas à part entière du tout, mais qui vient influencer sur l'hôte. Et on va avoir en troisième l'espèce dont on teste la modification de l'interaction, donc soit le prédateur, la proie ou alors l'organisme commensal, le petit cilié.
Qu'est-ce que c'est justement ce petit cilié? Vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est qu'un organisme commensal et quelle relation il a avec l'hydre?
Alors un organisme commensal, c'est un organisme qui va être ni un parasite, ni ce qu'on appelle un mutualiste qui apporte un avantage. Donc, mais qui entretient quand même une relation de longue durée. C'est-à-dire que ce cilié, il ne vit que sur ses hydres. C'est un organisme unicellulaire, mais quand même assez gros pour être visible à la loupe, qui est sur l'hydre, qui s'y nourrit, qui s'y reproduit. D'ailleurs, ils ont un système pour inhiber les petites cellules venimeuses de l'hydre, un peu comme le poisson clown et l'anémone. Sauf que le cilié n'apporte a priori, pour le moment, pas de bénéfices qu'on connaisse à l'hydre. Donc pour elle, c'est neutre. Par contre, pour le cilié, c'est vital.
Et du coup, quel type de relation ou d'interaction vous avez observé dans cet écosystème entre les différents composants de...
Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que le nombre de ciliés sur ces hydres était déjà bien supérieur. Donc les ciliés vont se diviser beaucoup plus. Et aussi, ils vont être plus attirés par les hydres porteuses de tumeurs. Donc potentiellement, ces hydres-là vont constituer un environnement plus propice à leur développement.
Et vous avez une hypothèse là-dessus? C'est parce qu'elles ont davantage de tentacules ou...
Ça peut être plusieurs choses. Ça peut être à la fois davantage de tentacules, donc elles mangent plus, elles font peut-être plus de débris, du coup, quand elles mangent, ce qui pourrait être consommé par les ciliés. Après, ce qui est difficile pour trancher dans cette question, c'est que le cilier, c'est un organisme très peu étudié. En tout, dans la littérature, il y a 4 articles depuis le début de la science qui ont étudié ces ciliés. Donc, c'est pour ça que c'est difficile pour nous de dire vraiment ce qui est intéressant pour un cilier chez l'hydre.
Donc, on va revenir sur ce que vous nous disiez en premier lieu. Donc, vous avez constaté qu'elles étaient meilleures prédatrices, donc ouais. Les hydres atteintes d'un cancer. Ça semble contre-intuitif, comme on le disait, on a plutôt l'impression qu'un cancer affaiblit les organismes. Donc, à quoi c'est dû ? C'est à cette multiplication des tentacules en particulier ?
Dans les faits, oui, ça va être cette multiplication des tentacules qui va augmenter la taille du filet. Mais justement, on se pose des questions évolutivement, comment ce trait a pu émerger ? Est-ce que ce serait un mécanisme compensatoire ? Et on pense qu'en effet, c'est possible que ce le soit, notamment parce que ces cellules tumorales chez l'hydre, elles sont également transmises entre individus comme chez le diable de Tasmanie, sauf que là, c'est de la mère à l'enfant. Donc, ce qui fait qu'au cours des générations, dans notre laboratoire, il y a eu une sélection pour les hydres qui survivaient le mieux à leur cancer. Et pour les cancers aussi, qui affaiblissaient le moins leurs hydres et qui leur permettaient de continuer à bourgeonner. Donc, on pense que ça pourrait être un mécanisme à l'origine de l'émergence de ce trait compensatoire qui serait le plus grand nombre de tentacles. Mais il y a évidemment d'autres hypothèses. Ça, c'est notre hypothèse de travail actuellement. Ça pourrait être même simplement mécanique. Plus de cellules, plus de tentacules.
Et donc, inversement, vous remarquez aussi, comme vous le disiez, qu'elles attirent davantage l'attention des prédateurs et donc qu'elles se font plus manger. C'est en raison de la taille ?
On pense, en tout cas, parce que sur l'espèce de poisson qu'on a utilisé, on sait que les signaux visuels sont très importants. Et en fait, le poisson va repérer beaucoup plus rapidement l'hydre. Après, on ne peut pas exclure que ce soit aussi des signaux chimiques, puisqu'il y a des signatures chimiques particulières associées aux organismes qui ont des cancers. Donc ça, on ne peut pas l'exclure. En fait, le plus important, nous, dans l'étude, ça a été surtout de montrer pour la première fois que le phénotype d'un individu va modifier les interactions avec une autre espèce. Et ça, c'était vraiment avoir la preuve de ce concept, puisque ça, c'est un peu énoncé, on en parle, on s'en doute que les prédateurs vont plus souvent manger des individus plus faibles, etc. Mais on ne l'a jamais montré. Et là, on avait l'occasion, avec ce modèle et avec les différents autres organismes, de le faire.
Et du coup, si vous montrez que la présence de ces tumeurs peut modifier l'ensemble de cet écosystème dans sa globalité, et vous parlez de cascade trophique, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu ce que c'est et comment ça se manifeste ?
Alors, une cascade trophique, c'est le fait que certaines espèces vont avoir une influence de par le fait qu'elles consomment d'autres espèces sur leur population. On a par exemple l'exemple du loup Yellowstone qui est très très connu. Quand on a réintroduit ce prédateur, ça a eu des effets en cascade sur tout l'écosystème puisqu'il y a eu moins d'herbivores, du coup les prairies se sont refleuries, etc. Donc c'est ce type d'effet qu'on pourrait avoir. Maintenant, il est beaucoup trop tôt pour dire que c'est le cas chez l'hydre, puisqu'on n'a déjà même pas idée de à quel point ce cancer est fréquent dans la nature, parce que ça se trouve, on est en train de faire plein de choses, mais il est peut-être complètement absent de la nature. Bon, c'est aussi des travaux qu'on fait en ce moment, on en trouve quand même sur le terrain, c'est quand même un bon signe, mais l'hydre reste peu étudié, on ne va pas savoir en fait vraiment quelle est son importance trophique. On a quelques papiers qui montrent que quand même, quand elle est présente, ça modifie un petit peu notamment la densité des poissons, etc. Mais c'est encore très tôt. Après, étant donné que le cancer concerne la majorité des espèces vivantes, déjà de savoir que sur ce petit organisme, ça a pu modifier les interactions, on peut se reposer des questions sur si les guépards ont des cancers, ça ne va peut-être pas avoir la même influence que si c'est la gazelle et ce genre de choses en fait.
Alors, justement, votre laboratoire, Mivejac, a déjà montré par le passé qu'il y avait de plus en plus de cancers donc dans la faune sauvage. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte le cancer et en faire réellement un vecteur quand on va étudier l'évolution des écosystèmes ?
Oui, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important et on le voit bien avec l'exemple du diable de Tasmanie. C'est un animal qui a beaucoup souffert de la fragmentation de son habitat, du coup de la diminution de sa diversité génétique. Et c'est à cause de ça qu'il souffre de ces tumeurs particulières, mais qui sont en train de décimer sa population. Donc là, on assiste à vraiment une espèce qui s'éteint à cause de ces tumeurs. Et le fait de comprendre en quoi, du coup, l'écosystème peut avoir un impact, on va pouvoir comprendre si cette espèce peut-être disparaît à cause de son cancer, qu'est-ce que ça va impliquer aussi pour les autres espèces qui l'entourent ? C'est un peu ça, le message.
Et justement, ces cancers, ils sont aussi provoqués par les activités humaines et la pollution, tous ces composants qui peuvent avoir une action mutagène et provoquer des cancers dans la faune sauvage. Est-ce que, rapidement, en une minute, vous pourrez me dire si ces travaux, ça permettrait de mieux aussi anticiper les conséquences des pollutions et d'avoir des nouvelles directives dans ce sens-là ?
Mon étude, en l'occurrence, non, pas spécialement. C'était vraiment pas. On n'était pas concentré sur les causes de l'émergence de ces cancers. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est important et qu'on regarde aussi dans les études de terrain qu'on fait. On essaye de voir si les perturbateurs endocriniens, le cadmium notamment, qui peut être présent dans l'environnement, va générer des cancers. Et ça peut nous aider à prévoir effectivement l'état de la population et l'état du coup de ces chaînes trophiques éventuellement dans ces milieux naturels-là. Et il y a encore beaucoup de boulot.
Un grand merci Justine Boutry d'être venue nous présenter cette étude vraiment passionnante. Et on passe maintenant à notre séquence reportage. Et là, je ne résiste pas à l'envie de vous mettre dans l'ambiance. Je vous emmène à l'Institut botanique, situé tout au fond du Jardin des Plantes. Là-bas, j'ai rendez-vous avec Audrey Théron, qui est chargée des collections à l'UM. Je parcours avec elle les très longs couloirs de ce bâtiment auquel l'aspect un peu vieillissant confère une ambiance toujours très particulière. Audrey s'arrête, ouvre une porte sur ce qui semble être une ancienne salle de cours et là, dans la pénombre, se dessine, dressée sur une vieille paillasse, une lionne grandeur nature.
Je m'appelle Audrey Théron et je suis chargée de collection muséale à l'Université de Montpellier.
Et donc aujourd'hui, tu nous fais découvrir la collection de zoologie, c'est bien ça ?
C'est ça, alors une collection de zoologie qui est dispersée dans plusieurs réserves. Donc là, on est plutôt dans les réserves qui sont consacrées aux mammifères. C'est une petite collection de 300 spécimens qui est dans deux pièces.
Et donc en rentrant dans cette première pièce, la première chose que l'on voit, c'est une lionne.
C'est une lionne qui a une petite histoire en plus assez marrante parce que en fait, la plupart des animaux que l'on possède, on ne connaît pas forcément leur histoire. On a des traces dans les catalogues avec une ligne le jour de l'achat ou de la donation. Mais celle-ci, en fait, on a pu un peu retracer son histoire parce qu'elle a été donnée par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris au 19e siècle et on sait qu'elle vient d'Alger. Et certainement, elle aurait été rapatriée lorsqu'il y a eu la chute du Grand Dais d'Alger au milieu du 19e siècle. Et donc, les Français avaient récupéré la ménagerie du Grand Dais et l'avaient rapatriée à Paris. Et de Paris, en fait, lorsqu'elle est décédée, on a récupéré en fait l'animal naturalisé. Alors empaillé et naturalisé, c'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui on a tendance à dire naturalisé, empaillé parce que tout simplement il y avait de la paille au 19e siècle qu'on mettait à l'intérieur, en fait un petit peu tout ce qu'on trouvait, hein. D'ailleurs il peut y avoir du tissu, de la mousse, mais aujourd'hui on dit naturalisé parce qu'on utilise des mousses spécialisées qui reproduisent la forme du corps et qui sont mieux pour la conservation puisqu'en fait la paille ça amène quand même des petits insectes qui peuvent aussi grignoter la peau.
Donc ce spécimen là date du 19e siècle.
La plupart des collections de l'université date du 19e siècle, hein, puisque l'université, la faculté de sciences a été créée en 1808.
À côté de cette lionne, donc on voit pas mal d'autres animaux, à commencer par des chauves-souris.
Oui, alors on est en plein récollement des collections. Alors le récollement, c'est différent d'un inventaire. Donc l'inventaire, c'est notre travail de base, c'est savoir ce qu'on a dans les collections. Et une fois qu'on sait ce qu'on a dans les collections, on fait du récollement, c'est-à-dire qu'on reprend l'inventaire et on vérifie que toutes les pièces sont toujours là. Donc là, les inventaires ont été réalisés et puis là, on fait le récollement des collections et en année, il restait que les grands mammifères, enfin les grandes chauves-souris à réaliser.
D'accord, donc effectivement, elles sont grandes, on n'en voit pas des comme ça en Europe.
Là, on les avait sorties parce qu'il y a eu justement un reportage sur les chauves-souris avec Sébastien Puechmaille.
Et ça soulève un point important, à quoi ils servent ces animaux naturalisés aujourd'hui ?
Alors c'est vrai qu'ils ne sont plus utilisés pour les cours aujourd'hui, on parle de collections patrimoniales, donc des collections historiques qui sont utilisées essentiellement dans les musées et pour des expositions, de la valorisation et de la connaissance. Il y a des espèces qui sont parfois disparues, d'autres qui sont en voie de disparition, donc ça permet aussi de garder une trace et puis il y a quand même des gens qui font de la recherche dessus, qui peuvent venir pour faire des prélèvements de poils, de peau, de tissus, d'ADN.
Alors par terre, on voit que c'est un tatou, c'est pas un pangolin ?
C'est un pangolin.
Le fameux pangolin, d'où est-ce qu'il vient ?
Les collections qui sont dans cet espace-là, on les a récupérées il n'y a pas très longtemps sur le campus du Triolet. Après le confinement et pendant le confinement, on a eu un gros travail d'inventaire et de remise à jour de nos réserves. On a pu les réaménager et rapatrier les dernières collections qui manquaient.
Alors justement, est-ce qu'il y a des spécimens qui sont plus rares que d'autres dans cette collection ?
On est soumis à des réglementations de plus en plus drastique, donc on fait attention aussi à la provenance de nos collections lorsqu'elles datent d'après la convention de Washington dans les années 70.
Qu'est-ce que c'est la convention de Washington ?
La convention de Washington, en fait, c'est une convention qui établit la protection de la faune et de la flore et qui justement émet tous les critères pour protéger notre biodiversité. Donc il faut toujours justifier de nos espèces et puis quand on a des donations encore aujourd'hui de particuliers, il faut leur demander s'ils ont des justifications et les soumettre donc à la DREAL qui autorise ou non l'entrée en collection.
À côté du pangolin, là on a des reptiles, donc des crocodiles, des petits caïmans.
On a une petite collection de reptiles effectivement qui sont juste à côté, dans la pièce à côté. Là, c'est pareil, c'est deux étudiants qui ont réalisé l'inventaire l'année dernière.
On peut aller les voir d'un peu plus près.
Oui, alors, par contre, on n'y voit pas très bien.
Alors, au fur et à mesure que Audrey lève le rideau, on voit des dents apparaître et des serpents.
Les collections, elles ne sont pas toujours en très bon état. Déjà, elles étaient manipulées par les étudiants, donc c'était des collections pédagogiques avant tout. Et puis, en fait, elles ont été transbahutées pas mal de temps avant que l'université ne crée ce qui est aujourd'hui le service du patrimoine historique. Et les tissus, ça reste quand même assez fragile dès qu'il y a un peu de poussière, surtout les reptiles.
Il y a des conditions particulières, justement, pour les conserver?
Comme toutes les œuvres d'art, voilà, il y a des conditions de luminosité, d'hygrométrie, voilà, donc ils sont surveillés dans chaque salle. Ça, c'est la partie naturalisée, il y a la partie en fluide. Donc tout ce qui est en bocal, qui est sur le campus du Triolet. Donc là aussi, c'est une autre manière de conserver, qui est aussi un peu plus dangereuse, parce qu'on utilisait aussi des produits toxiques au 19e. Et c'est pareil, même pour les animaux qu'on voit là, les peaux étaient souvent tannées à l'arsenic, donc on ne manipule pas avec les mains.
Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des iguanes, de crocodiles, voilà. Et de caïmans, et de serpents.
Puis après, une grande collection de tortues. Il y a des gros spécimens, il en reste encore quelques-unes sur le campus qui sont utilisées. Ça va de l'ordre du 2 cm, à peut-être presque un mètre pour les grosses carapaces.
Oh, il y a des sacrés poissons aussi.
C'est pareil, les poissons, c'est très gras, donc c'est très compliqué à naturaliser parce qu'il faut les dégraisser, les faire bien sécher. Et en général, après, s'ils sont mal séchés, ils ont la couche, l'empoussièrement se fait très rapidement et il peut y avoir des départs de moisissure assez rapides.
Il y a encore un risque qu'ils s'abîment ou
Oui, alors ils peuvent s'abîmer parce que les peaux, bah, comme les peaux, le bois, nos cheveux, voilà, tout ce qui est vivant, en fait, se rétracte. Et se contracte ou se rétracte, et puis en fonction de l'hygrométrie en fait, de l'eau dans leur corps. Donc en fait, ça fait. Les animaux sont cousus, donc les coutures lâchent parfois sur certains animaux, on peut le voir.
Il y a une autre pièce. Et donc là, avant même d'avoir passé la porte, on voit un guépard en train d'attaquer un petit zèbre. C'est étonnant comme mise en scène. Donc.
Oui, alors la taxidermie, il y a toute une évolution dans la représentation des animaux. Donc en général, ça permet aussi de dater parce qu'il y avait des représentations très agressives à une période qu'on ne fait plus quasiment aujourd'hui. Là, c'est un spécimen, enfin deux spécimens qui ont été mis en scène comme ça par le taxidermiste du zoo. On a une convention avec le zoo pour parfois récupérer des peaux ou des os qui sont d'ailleurs utilisés en général par l'ISEM, l'Institut des sciences de l'évolution.
Alors autour de nous, on voit beaucoup de cornes, de bois. On voit même une vraie tête de girafe qu'on voit.
Oui, c'est ce qu'on appelle des trophées. Donc ce sont uniquement les cornes ou le frontal du crâne avec les cornes. Ça dépend, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir parfois la tête en entier naturalisée. Donc là, on a la tête de la girafe. Bon, alors il faut savoir que nous aussi, on avait un taxidermiste à l'université avant 2008, puisqu'il est parti à la retraite. Et donc je crois que c'est lui qui avait beaucoup travaillé sur ce spécimen-là. Et donc on a le squelette qui correspond à cette girafe. Le squelette est toujours dans les salles de TP et à part.
Il n'y a plus d'os, non?
Non, il n'y a plus d'os. En fait, dans aucun des spécimens qu'il y a ici, les os sont retirés et sont utilisés pour... en fait, on pouvait utiliser tout sur un spécimen. Donc, on montait les os sur un socle à part et puis après, on montait la peau à côté. Ça permettait aussi de comprendre l'intérieur de l'animal. Ce sont des fils de fer aussi qui maintiennent.
Qui c'est, lui? C'est une sorte de kangourou?
Voilà, c'est un wallaby. Et là, il y a écrit figuré en gros sur son socle. Donc, a priori, ce serait un animal qui a permis les figurer de décrire une espèce.
Donc, on a des antilopes, des bouquetins. Au-dessus, donc, on a un sanglier. On a, c'est un fourmilier, un tamanoir.
Voilà. Il est pas mal sorti en exposition. Et c'est un beau spécimen.
Là, on a un gros animal. Donc, c'est aussi un capridé. Là-haut, il y en a... Alors, j'ai du mal à dire que c'est beau, mais en tout cas, c'est très impressionnant.
Les amis, c'est vrai, sur des étagères, donc c'est vrai qu'ils dominent là-haut, et donc on a l'impression qu'ils vont nous sauter dessus aussi. Et il y a un gros lémurien aussi qui est accroché à sa branche. Il faut savoir qu'au 19e siècle, donc, on ne rapportait que les peaux. Les peaux et les os séparés pour pouvoir les conserver sur la durée. Des voyages qui pouvaient durer plusieurs années en bateau. Hein.
Et en face de nous, c'est un petit dromadaire noir?
Non, c'est un petit lama. C'est une vigogne. Alors, il y en a aux zoos, des vivants.
C'est plus sympa quand même.
Le castor, il a l'air énorme au-dessus énorme, aussi.
Voilà. C'est un ragondin, non ? Le castor, il est... Alors, le castor est dans le frigo. Parce qu'en en fait, il était en exposition au Musée Fabre pour l'exposition Pharmacopée. Et en fait, quand on fait revenir des pièces d'un musée, d'une exposition, ou qui se sont baladées en dehors de nos réserves, on les congèle. On les surgèle même. Ils passent à... là, ils sont à moins 50 à peu près. Pour éviter toute infestation dans les collections. Parce qu'une infestation... c'est le drame et ça peut vite manger tous les peaux et tous les poils. Donc voilà, et la surgélation à environ une semaine de nos spécimens permet d'éviter ces problèmes-là.
Alors là, on a un loup.
C'est un loup gris. Le loup était à la place de la lionne. Donc c'est vrai que quand on rentre, on voit la lionne en face de soi qui est face à la fenêtre. Donc c'est assez impressionnant. Et avant de récupérer la lionne, c'était le loup. Et une fois, on avait fait intervenir, je pense, pour des problèmes d'électricité, des techniciens. Et en fait, j'avais ouvert. Je me dis, c'est là-bas. Il rentre et je les vois repartir en criant, un loup. Il est vraiment en train de sortir en courant. Mais il est mort.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Anna Demelandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.